This is Radio France International.
Paris, RFI,
$1,000.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde ce soir pour la rédaction vietnamienne Tran à Tran.
Philippe.
Pour le projet de loi sur trois zones économiques spéciales au Vietnam qui suscite de vives polémiques. Raphaël Moran, également de la rédaction en espagnol.
Buenas tardes, Philippe.
À propos de la victoire à la présidentielle en Colombie du candidat de la droite, Iván Duque. Bonsoir à vous, mais avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir la décision de Donald Trump, puis sa volte-face, concernant la séparation des enfants de leurs parents immigrés en situation irrégulière. À la rédaction vietnamienne, Tran à Tran, vous avez regardé comment la presse américaine analyse ce recul du président des États-Unis.
Oui, nous avons constaté que les médias américains se montrent plutôt sceptiques quant aux solutions apportées par le décret signé le 20 juin dernier, après quelques jours de vives polémiques tant aux États-Unis que sur la scène internationale. En effet, en changeant d'avis, c'est-à-dire en mettant fin à la séparation des familles après plusieurs jours de fermeté politique sur le même sujet, le président Trump semble avoir cédé aux nombreuses critiques provenant des élus démocrates, de la société civile et même de son propre camp. Mais quand on voit aussi que les attaques du président Trump contre les parlementaires démocrates, par exemple, visaient avant tout à débloquer un vote du Congrès sur une nouvelle loi de l'immigration, notamment à faire financer son mur à la frontière avec le Mexique.
Autrement dit, les attaques de Trump contre les parlementaires démocrates visaient à débloquer finalement le loi de cette nouvelle loi sur l'immigration. Raphaël Moran, les réactions qu'a suscité cette politique sans précédent au Mexique, tout d'abord, une vive réaction.
Oui, après la publication de cette vidéo, on voit des enfants détenus, des enfants migrants détenus dans des gymnases, séparés par des espaces grillagés, derrière des cages en quelque sorte. Le chef de la diplomatie mexicaine, Luis Videgaray, a qualifié de cruel d'inhumaine la politique migratoire de l'administration Trump. Luis Videgaray a tout de même employé un ton assez prudent en expliquant qu'il respectait la souveraineté des États-Unis. Cette réaction, c'était un petit peu la réaction minimum qu'on pouvait attendre du Mexique. Il y a beaucoup de migrants centra-américains, mexicains, parmi tous ceux qui franchissent la frontière.
Oui, on va faire juste un cours de géographie. Les États-Unis ont leur principale frontière au sud avec le Mexique.
Voilà, exactement. Mais plusieurs ONG ont jugé tardive la réaction du Mexique. Apparemment, cela fait plusieurs semaines que plusieurs ONG alertent sur cette situation. Et en plus, le Mexique est assez mal placé pour donner des leçons aux États-Unis à propos des migrants, parce que quand ils traversent les migrants d'Amérique centrale, quand ils traversent le Mexique du sud au nord pour gagner les États-Unis, ils subissent aussi des atrocités. Pour en revenir à la situation des enfants, les révélations de ces images des enfants séparés de leurs parents et les témoignages de médecins notamment ont provoqué un tollé. Il y a un pédiatre interviewé par l'AFP qui s'est rendu dans plusieurs de ces centres et qui affirme avoir vu des enfants prostrés, muets, incontinents aussi, c'est-à-dire que victimes de traumatismes en fait. À ce propos, on a suivi le sujet notamment à travers des ONG à la frontière qui s'occupent de ces enfants. Je propose d'écouter Caroline Mails de l'ONG Save the Children, interviewée par Andreina Flores.
There is no law on the book.
No hay ninguna ley escrita que diga que los niños se deben ser separados de sus padres. No hay una legislación que establezca
que dit cette femme.
Alors, la voix a été traduite par notre consoeur Andreina Flores. La responsable de l'ONG Save the Children explique qu'il n'y a aucune loi aux États-Unis qui oblige l'État à séparer les enfants de leurs parents. C'est donc bien une décision politique assumée de l'administration Trump. Il y a au total actuellement à peu près 2400 enfants qui ont été séparés de leur famille dans les derniers mois. Et ce sont des enfants très petits, de 4 ou 5 ans, souligne.
Alors, finalement, Donald Trump a fait marche arrière, en partie. Il a interdit la séparation de ses familles, mais il maintient la criminalisation de l'immigration clandestine. Il s'agit donc de cette fameuse tolérance zéro promise à ses électeurs lors de la campagne électorale. Et pour une partie de la classe politique, c'est tout simplement inacceptable.
Oui, l'administration américaine ne va donc plus isoler les enfants, les séparer, mais elle continuera à arrêter leurs parents. leurs parents migrants. Une dizaine d'États américains s'opposent à cette politique et d'ailleurs ils ont annoncé des poursuites en justice contre l'administration Trump pour sa politique migratoire. Il s'agit notamment de la Californie, de l'État de Washington et du New Jersey. Le procureur général de l'État de Washington a annoncé hier qu'il souhaitait mettre un terme à cette politique qu'il juge cruelle, aberrante et anticonstitutionnelle. Alors ce type d'initiative n'est pas nouveau. On sait que de nombreux États américains sont déjà vent debout contre le décret de Donald Trump qui empêche les citoyens de plusieurs pays musulmans d'entrer en territoire américain. Eh bien, en retour, l'administration fédérale poursuit ces États comme la Californie qui se sont déclarés des sanctuaires, c'est-à-dire des États protecteurs pour les migrants. Le bras de fer est donc loin d'être terminé.
Traîne, au-delà des questions d'ordre moral, les États-Unis doivent relever ce défi de cette politique tolérance zéro.
Oui, on a l'impression que le président des États-Unis apparaît au plus pressé. Son décret ne dit rien cependant sur le sort de 2400 enfants coupés de leur famille et qui ont été d'ores et déjà placés dans les centres dispersés dans 13 États aux États-Unis. Il ne permet pas non plus de comprendre le sort qui sera réservé aux familles appréhendées depuis mercredi 20 juin. Puis il y a aussi un défi logistique posé par les incarcérations en famille. Le ministère de la Défense a d'ailleurs été sollicité pour préparer l'accueil des enfants selon le New York Times. Enfin, le défi juridique, comment juger tous ces cas dans un délai si court, sans compter qu'au Congrès, les députés sont profondément divisés.
Oui,
président Trump semble découvrir cette évidence au bout de 18 mois d'exercice.
Absolument. Et Raphaël Morin, vous observez que ça fait plusieurs mois maintenant que Donald Trump travaille pour faire passer cette loi et fixer un cap en matière d'immigration.
Un vote important devait avoir lieu ces jours-ci. Il a été reporté à la semaine prochaine. Il signe qu'il y a des dissensions au sein des Républicains. Les ailes dures et les ailes modérées n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la proposition de Trump qui a trois priorités. Financer la construction du mur, on l'a dit. Donner un statut aux Dreamers, ces jeunes arrivés aux États-Unis alors qu'ils étaient mineurs et qui ont fait leur vie aux États-Unis.
Les Dreamers pour rêveurs.
Voilà.
Ils rêvent d'une vie
qui
meilleure.
Qui aspirent à une vie meilleure. Et troisième priorité de Donald Trump, en tout cas de l'aile dure des Républicains, réduire l'immigration légale. Il y a des divergences sur la question des travailleurs sans papier agricoles également. Et c'est à cause de ça que le vote a été reporté ces jours-ci.
Je reviens vers vous. De nombreux commentateurs estiment que la signature du décret n'apporte qu'une réponse temporaire à la gestion de l'immigration. Je parle de ce décret qui finalement n'oblige pas à séparer les familles.
Oui, le texte du président ne fait rien pour résoudre la situation critique de ces enfants déjà séparés de leurs parents, comme note le New York Times. Mais je voudrais dire également que, en fait, c'est un débat qui ne met pas non plus les démocrates très à l'aise, comme le souligne le magazine The Week, parce que l'administration Obama avait pris aussi des mesures très restrictives pendant le premier mandat. Et Hillary Clinton elle-même est allée jusqu'à dire que les enfants migrants arrivant d'Amérique centrale devraient être renvoyés chez eux pour faire passer un message à leur famille.
Vous écoutez Accent du Monde sur RFI. Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langue étrangère de Radio France Internationale. La rédaction Amérique latine s'est bien évidemment largement fait écho du résultat de la présidentielle en Colombie. Le candidat de droite, Iván Duque, a été élu face à l'ancienne maire de Bogota de gauche, Gustavo Petro. Et l'élection d'Iván Duque impacte déjà l'application des accords de paix signés avec les guérillas des FARC. Il l'avait d'ailleurs annoncé. Raphaël Morin, il faut rappeler que le candidat de droite a fondé une partie de sa campagne sur cette révision donc des accords.
Oui, Iván Duque est le dauphin politique de l'ex-président Álvaro Uribe, très conservateur, qui s'est opposé férocement aux négociations de paix avec les FARC, la guérilla des FARC. Donc le président sortant, Juan Manuel Santos, a tout de même réussi à aller au bout de ce processus de paix exceptionnel. 50 ans de conflit, on le rappelle, 7000 guérilleros qui se sont désarmés, qui ont déposé les armes, qui petit à petit vont réintégrer la vie civile, hein, et des combats évidemment qui ont cessé dans plusieurs pays, dans plusieurs régions du pays. C'est vraiment l'élément le plus important, hein. Il y a quand même des secteurs très durs de la droite colombienne qui n'en démordent pas. Le nouveau président Iván Duque a promis de modifier l'un des piliers de l'accord de paix, c'est celui de la justice transitionnelle.
Alors justement, et plus précisément, il s'agit de quoi, Raphaël ?
Eh bien, ce chapitre prévoyait d'instaurer une juridiction pénale spéciale pour la paix, des réductions de peine, des aménagements de peine pour les guérilleros et les soldats aussi, qui accepteraient de dire la vérité sur les massacres. Il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a eu beaucoup de disparus, leurs familles ont besoin de faire le deuil, et donc en échange de tout ce travail de vérité, de ces confessions, l'État colombien, la justice colombienne acceptait un certain nombre d'aménagements de peine, de limiter les peines. Or, le président élu ne supporte pas cette idée que les anciens guérilleros reconnus coupables évitent la prison dans certains cas. Il veut instaurer des peines minimales et aussi interdire aux anciens dirigeants des FARC à se présenter à des mandats politiques, comme le prévoyait le chapitre sur la réinsertion dans la vie politique et civile.
Et justement, il a été question de tout cela cette semaine au Parlement.
Oui, les parlementaires devaient voter la mise en place de cette nouvelle juridiction. Elle avait été approuvée, élaborée par des juristes internationaux. Et le président élu et son parti au Sénat et au Parlement ont bloqué l'examen du projet de loi de création de ce tribunal cette semaine. Ils veulent attendre la constitution du nouveau Parlement où ils seront en position de force, qui aura lieu en août, et ainsi recommencer le processus législatif, probablement pour affaiblir cette juridiction de paix.
Alors jusqu'où peut aller le nouveau président dans sa volonté de remettre en cause ces accords conclus de haute lutte, hein, après des années de négociations avec les FARC?
Je vous propose d'écouter la réponse de Jorge Restrepo, un politologue colombien spécialiste du conflit armé.
Yo no creo que en el ejercicio de gobierno de Iván Duque se logre revertir.
Quelle est son analyse?
Alors, il considère que durant le mandat d'Iván Duque, il est quand même peu probable qu'on revienne sur l'accord. En revanche, selon lui, il est fort probable que le futur président, le futur exécutif, retarde ou mette des obstacles à l'application des accords de paix, comme il le fait d'ailleurs déjà. Mais il est peu probable que le conflit armé recommence, par exemple, hein, ce qui était quand même une des grandes inquiétudes de plusieurs secteurs, notamment des FARC, hein, de ceux qui se sont démobilisés, puisque certains courants de la droite dure ne voulaient pas négocier avec les FARC, ils voulaient tout simplement anéantir les guérilleros.
Ce qui n'est pas le cas d'Iván Duque, hein.
Non, il a dit qu'il ne réduirait pas en miettes l'accord de paix, ce sont vraiment ses mots, mais qu'il apporterait des retouches.
Raphaël Morin de la rédaction hispanophone de RFI. La rédaction vietnamienne, elle, s'est particulièrement intéressée à la polémique qui entoure la création de 3 zones économiques spéciales. Il y a un mois, l'Assemblée nationale du Vietnam a débattu du projet de loi sur ces unités administratives et économiques. Mais face à de vives critiques de l'opinion publique, l'examen du texte a été reporté sine die. Alors, pour que l'on comprenne bien tout cela, tous ces enjeux, de quoi s'agit-il précisément, Tran Tran?
Alors, il faut d'abord avoir en tête que le Vietnam est un pays qui a une forme de S. Et les 3 zones économiques spéciales du pays sont concernées, sont situées l'un au nord, l'autre au centre et enfin le troisième au sud. C'est-à-dire que ça couvre quasiment tout le pays. Et en fait, l'objectif de toute zone économique spéciale, c'est de mettre en place un cadre juridique approprié au développement de ces zones. Les autorités vietnamiennes cherchent à attirer tout simplement les investisseurs étrangers et qui pourraient louer donc les terrains concernés pour une durée de 99 ans. Comme toute ZES, ce sont des zones bénéficiant donc des réglementations économiques spécifiques, notamment des avantages fiscaux. Et le but, c'est donc d'attirer les investissements pour développer le pays.
Et ça implique généralement différents avantages fiscaux, donc pour attirer les investisseurs. Pourquoi est-ce que ça coince dans l'opinion publique? D'autant que même si l'examen du texte à l'Assemblée nationale a été reporté, des manifestations continuent d'être organisées régulièrement.
Oui, alors plusieurs points me posent un problème. D'abord, écoutons notre invité, l'économiste Lê Đăng Doanh à Hanoï. Et curieusement, son principal souci est la question de la sécurité nationale autour de ces zones économiques spéciales.
Ce
Quel commentaire vous a-t-il fait?
Le plus important, c'est d'apporter des amendements garantissant la souveraineté et la sécurité nationale. Économiquement parlant, pour attirer les investisseurs, il vaudrait peut-être mieux avoir des lois transparentes au lieu d'accorder des avantages excessifs des concessions pour une période de presque un siècle, ou bien accorder aussi des impôts sur les sociétés avantageux.
Il faut dire trois autres choses. Passons en revue ces trois points. Le premier.
Donc le premier, comme on a dit, donc c'est le souci de la sécurité nationale. Il faut savoir que une de ces trois ZES est située dans la zone sensible d'un point de vue géopolitique et géostratégique, qui se situe donc face à des îlots de Spratly dans la mer de Chine du Sud. C'est un endroit où la Chine et le Vietnam se disputent la souveraineté.
Deuxième point.
Et bien qu'elle soit censée attirer les investisseurs étrangers, donc c'est-à-dire de toute nationalité, mais on sait pertinemment que les premiers intéressés sont les Chinois. Or, les Vietnamiens sont traumatisés par les expériences de gestion avec les entreprises chinoises.
Et troisième point.
Enfin, l'exemple de la ZES de Bokea au Laos, près du Triangle d'Or en Asie du Sud-Est, prise en main par la compagnie hongkongaise, traumatise les Vietnamiens parce que là, il y a les jeux, le sexe, la drogue sévissent, et autour des salles de jeux et les hôtels de luxe, etc. Donc tout cela suscite de très vives inquiétudes.
Train de la rédaction vietnamienne. Je reviens vers vous, Raphaël Morane. Le machisme de certains supporters sud-américains, brésiliens, colombiens, argentins en Russie. La Russie, la Coupe du Monde, donc, qui bat son plein. Et le comportement de ces supporters qui suscite la colère sur les réseaux sociaux. Et des sujets qui ont fait réagir les auditeurs des rédactions latino-américaines de RFI.
Oui, plusieurs vidéos de supporters sud-américains au comportement machiste, agressif ou qui enfreignent les règles dans les stades, tout simplement, sont devenues virales. On va écouter un extrait, le son d'une vidéo qui s'est passée mardi après le match Japon-Colombie.
Colombia 1. Yo soy.
Soy Bella.
Apparemment, ce sont des supporters qui apprennent à parler
à une japonaise.
Sauf que
ce sont des Colombiens qui essayent de faire répéter quelques mots d'espagnol à deux supporters japonaises, sauf que ce sont des grossièretés machistes, hein, pas besoin de les traduire en détail. Alors le supporter colombien qui figure sur cette vidéo s'est excusé sur les réseaux sociaux, il a expliqué qu'il était ivre. Un autre supporter argentin, un autre cas un petit peu similaire qui avait fait la même chose avec une jeune russe en essayant de lui faire répéter des insultes ou des obscénités. Lui s'est carrément fait exclure des stades à la demande du gouvernement argentin et on a appris qu'il était retourné dans son pays.
Et au Brésil, le comportement là encore d'un groupe de supporters en Russie a suscité là encore une vague d'indignation.
Oui, on voit une jeune femme entourée d'un groupe de supporters brésiliens. Ils lui font chanter pareil des obscénités à tue-tête à son insu. Elle ne comprend pas le portugais. C'est du machisme, c'est de la misogynie, c'est honteux, a réagi notamment entre autres le mannequin Fernanda Lima qui a présenté le tirage au sort du mondial. Le ministère des Affaires étrangères brésilien s'en était mieux aussi en appelant ses compatriotes à éviter ce genre de paroles dégradantes.
Toujours à propos de cette Coupe du Monde, chose intonante, tranatran. L'équipe de France de foot compte beaucoup de supporters au Vietnam.
Eh oui, ils n'ont Dieu et du cœur que pour cette équipe. Pas une seule coupe mondiale ou européenne, on ne parle pas de l'équipe de France. Et ça, c'est bien avant 1988. Cette fois-ci, en Russie, c'est la même chose. Écoutons notre consultant. Alors, Chen Van Mui dit, pour les fans et pour ceux qui font des paris, l'équipe de France en ce moment est au-dessus du lot, plus fort que les Brésiliens, plus fort que les Allemands. Et ils ne connaissent pas cœur le nom et la position des 23 joueurs français. Ils disent aussi que les joueurs français sont très solides, ils ont des bons résultats sur le gazon. Et c'est une équipe égale, harmonieuse. Avec Didier Deschamps, ils vont être forcément les champions de cette année.
Eh ben dis donc, les Vietnamiens qui supportent l'équipe de France, peut-être plus que certains Français qui estiment que les deux premiers matchs de l'équipe de France, certes ils ont gagné, mais n'ont pas été forcément aussi concluants que cela. Vous écoutez Accent du Monde. C'était Accent du Monde. Merci pour ces éclairages à tous les deux. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité sur RFI.